Césure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de l'année pour Césure, avec ce soir un programme palpitant, un grand quiz de Noël interactif. On va jouer ensemble avec vous à la maison, on vous expliquera comment ça fonctionne. Mais déjà, je salue deux personnes, Brian Despagnier, le trajet son qui fait des miracles en direct avec nous en ce moment, et Bastien Blanchard. Salut Bastien.
Salut Olivier, nous sommes, comme tu l'as dit, le mercredi 5 décembre, et nous sommes en direct pour la première fois de l'histoire de Césure des studios de la radio La Fabrique.
Il y a la pression, il y a la pression là.
Voilà.
On va essayer de réaliser un beau match, hein. Droit au but.
Alors parle-nous déjà un tout petit peu de ce quiz qui va venir juste après l'agenda que vous connaissez déjà.
Alors oui, on va faire un quiz sur le théâtre et la musique. Et pour jouer avec nous depuis votre smartphone, depuis votre tablette ou depuis votre ordinateur, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de télécharger une application, comme ça c'est pas compliqué. Il faut vous rendre sur le site kaout.it, K-A-H-O-O-T.it. K-A-H-O-O-T.it et inscrire à ce moment-là le code PIN de notre jeu qui est le 754-067. Donc je répète une petite fois pour que les premiers, les plus rapides s'inscrivent déjà avec nous. Allez sur le site kaout.it, K-A-H-O-O-T.it et inscrire le code PIN 754-067. 754-067. On a déjà... Oh là, il y a déjà quelques inscrits, quelques personnes qui jouent avec nous.
On aura le temps de vous le rappeler.
On va vous le rappeler. Peut-être passons à l'agenda, histoire de gagner un peu de temps. Inscrivez-vous, on se réjouit de jouer avec vous. Bastien, en décembre, que va-t-on pouvoir aller voir au théâtre?
Alors, en décembre, un joli programme. Tout d'abord, je vous propose d'aller au Théâtre du Poche à Genève, voir La Côte d'Azur de Guillaume Poix, mis en scène par Manon Crutli. Ça a déjà commencé, c'est jusqu'au 16 décembre. C'est inspiré de textes au cinéma de Romy Schneider, et notamment La Piscine avec Alain Delon. C'est dans le cadre de cette espèce de trilogie qui font sur le thème de la piscine, où on peut voir déjà les deux premières pièces qui ont déjà été jouées et qui sont encore jouées d'ailleurs. C'est La résistance thermale et La largeur du bassin. Les dates et les horaires sont sur le site du Poche de Genève. Je vous conseille d'aller les voir, ce sont des très bonnes pièces. Ensuite, vous pourrez aller au Théâtre L'Alchimique pour aller voir La cantatrice chauve de Ionesco, mis en scène par Cyril Kaiser. C'est donc au Théâtre de L'Alchimique jusqu'au 17 décembre. Pareil, ça a déjà commencé. C'est une pièce phare du Théâtre de l'Absurde, Ionesco, La cantatrice chauve. Un spectacle pour 4 comédiens et 3 marionnettes de taille humaine. Voilà, un dialogue de sourds entre les Smiths et les Martins. D'ailleurs, tu sais d'où vient l'idée de Ionesco ?
Non.
Les Smiths et les Martins, c'est en...
C'est deux noms assez communs.
Oui, c'est deux noms très très communs. C'est en lisant un livre d'apprentissage de langue. Il s'est rendu compte que les dialogues qu'il y avait là-dedans étaient totalement absurdes et sans aucun intérêt. Et du coup, il en a fait une pièce de théâtre, c'est La cantatrice chauve. Et ensuite, pour terminer, je vous propose d'aller voir Wild West Woman au Théâtre du Loup les 14, 15 et 16 décembre, écrit par Caroline Le Forestier et mis en scène par Augustin Bécard. C'est un feuilleton de 9 épisodes de 25 minutes qui suit le périple de 3 femmes le long de l'Oregon. Dans l'Amérique du 19e siècle. C'est donc avec 2 comédiennes pour incarner une 60aine de personnages et une bruiteuse en direct, comme nous ce soir, qui suggère tous les décors. Ce western théâtral est un véritable bijou scénique qui entend représenter sous forme de fiction radiophonique un moment de l'histoire de l'Amérique du point de vue des petites gens. C'est donc 9 épisodes de 25 minutes. La durée du spectacle est de 4h30. Donc, si vous avez 4h30 à tuer, allez au Théâtre du Loup les 14, 15 et 16 décembre. Il y a heureusement quelques entractes. Mais alors, au niveau de musique classique, Olivier, qu'est-ce qu'on va voir ce mois de décembre pour terminer en beauté l'année 2018
mais beaucoup de choses, c'est Noël, il y a tellement de choses. Peut-être refaisons un petit point, il y a beaucoup d'inscrits actuellement. Je vous rappelle comment jouer ce soir avec nous en direct à notre grand quiz de Noël. Il faut vous rendre sur le site kaout.it. K-A-H-O-O-T.it et inscrire le code PIN qui est 754-067. Pour nos amis bernois, vous devez aller jouer sur le site K-A-H-O-O-T.it. www.sprachenlernen.it et inscrire le code 754-07-67.
Voilà, le jeu concours commencera dans...
Oh là là, mais ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de monter, on va commencer dans quelques minutes
après la fin de l'agenda. Donc en musique classique, Olivier,
en musique classique, plusieurs choses, beaucoup de concerts de Noël. Pour commencer, le samedi 8 décembre à 20h et le dimanche 9 décembre à 17h au Temple de Saint-Gervais à Genève, le Chant Sacré, donc cet ensemble vocal, le Chant Sacré, donnera un concert de Noël avec des compositeurs un peu de toutes les époques. Ça va de Perrotin, donc le tout début de la musique polyphonique, avec du Schütz, ou encore du Rachmaninoff, ou encore des compositeurs plus modernes, sous la direction de Romain Mayor. Et pour ce concert, vous pouvez déjà réserver quelques places à la billetterie Migros. Sinon, le vendredi 7 décembre à 20h à la salle Paderewski de Lausanne, l'ensemble vocal de Lausanne, cet ensemble tellement réputé pour ses enregistrements et ses concerts d'excellente qualité, donnera un concert avec des œuvres essentiellement contemporaines, avec notamment des œuvres de Gérard Griset, un des précurseurs de la musique spectrale en France. Et aussi, tiens-toi bien Bastien, une œuvre de Peter Uddevoss qui s'appelle « Deux poèmes pour Polly ». Pour violoncelle récitant. Un violoncelle récitant. Alors, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais je crois que le soliste du soir, qui sera Xavier Gagnepain, va sûrement parler avec son violoncelle, ou enfin sur une œuvre contemporaine à découvrir, le 7 décembre à la salle Paderewski de Lausanne. Ensuite, pour les petits-enfants, les petits-nymphins, le 18 décembre à 19h et 20h30, donc dans la même soirée, 19h et 20h30, à la cathédrale Saint-Pierre, l'Orchestre d'harmonie de Genève, anciennement appelé la Landwehr, donnera un grand concert de Noël pour les enfants avec une visite de la cathédrale, donc à ne pas manquer une visite sympathique en famille. Sinon, notre premier invité de jamais, notre ami Vincent Thévenin, et son fameux Chanton Noël, ses musiques de Noël internationales chantées par l'Assemblée à tue-tête, sera de nouveau de retour cette année, le mercredi 12 décembre à 19h au Temple de Chêne-Bougerie, le vendredi 14 décembre à 19h au Temple des Eaux-Vives, et pour finir le dimanche 16 décembre à 17h30 à l'église de Bernay, ce concert où le public chante avec les musiciens, vous êtes formés pour, et c'est super sympa, j'avais été deux années dessus, c'est toujours un moment assez fantastique. Et pour conclure, une petite dernière, notre amie Lauriane Cherpillot, qui a créé un spectacle qui s'appelle « Au nom de la mer » avec la compagnie L'Ouragan Chanté, fait un monologue en musique, un monologue où elle va jouer différents instruments particuliers, je crois qu'il y aura du melodica ou comme ça. Je vous lis une petite phrase qu'il y a dans le flyer. « On donne trop d'importance aux mots, il arrive qu'ils contraignent à l'exil, aux prisons, au pire. Ils sont chargés de poids et pourtant ils ne sont que souffle. » Une immense tournée à Ayr-le-Lignon, Saint-Justin, Ville de Lausanne, Bernay, Chêne-Bougerie. Allez voir sur le site de Lauriane Cherpillot, sur sa page Facebook, il y a le flyer, il y a tout. Voilà, toutes les informations pour ce spectacle. Oh là là, ça monte. Il y a les gens qui s'inscrivent, fantastique. Il y a les gens qui se désinscrivent, il y a quelqu'un qui vient de se désinscrire. Nous allons bientôt commencer le jeu concours dans une minute.
Ça y est, allons-y.
Je vous rappelle les règles. Allez sur le site kahoot.it, kahoot.it. Je vous laisse quelques secondes, kahoot.it, avec tous les supports, smartphone, tablette, ordinateur, et inscrivez le mot de passe 754-067. 754-067. Si jamais vous ratez le début, il y a possibilité de se réinscrire plus tard.
Alors on vous rappellera toutes les coordonnées pour participer encore à un autre jeu si vous arrivez en cours de route.
Voilà, encore un inscrit, parfait. Je vous redonnerai à la fin de la première question. On est parti, attention, petit extrait musical. L'introduction de notre émission. Vous avez peut-être reconnu l'introduction de cette émission. Attention, la question va démarrer. C'est parti! Attendez, ça charge, on est bon, enfin c'est bon. Voilà, l'intro de l'émission Césure est tirée d'une œuvre très célèbre d'un compositeur. De qui s'agit-il? Rouge, Beethoven. Bleu, Berlioz. Jaune, Mozart. Ou vert, Haydn. Je répète, l'introduction de Césure est tirée d'une œuvre célèbre d'un compositeur. De qui s'agit-il? Rouge, Beethoven. Bleu, Berlioz. Jaune, Mozart. Ou vert, Haydn. Les réponses montent, je vois que les gens s'inscrivent, répondre. Encore une fois, rouge Beethoven, bleu Berlioz, jaune Mozart, ou vert Haydn.
Voilà, vous l'aurez remarqué, vous avez 30 secondes à chaque question pour y répondre.
Voilà, alors les réponses sont tombées. Il s'agissait effectivement de Ludwig van Beethoven, qui... Brian est content, il savait la réponse au fond de lui-même. Ludwig van Beethoven qui a composé dans sa 9e symphonie, il s'agit du deuxième mouvement. en l'occurrence, et qui nous avons utilisé pour notre introduction de l'émission Césure. Mais déjà, une deuxième question, je répète une dernière fois peut-être comment participer avec nous. Il faut aller sur le site kahoot.it, K-A-H-O-O-T, et mettre le mot de passe qui est, il ne s'affiche plus, 764-060. Bon, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Question suivante, êtes-vous prêt? Question théâtre. Top, au théâtre, quelle couleur est supposée porter malheur? Quelle couleur est supposée porter malheur? Rouge, bleu, jaune ou vert? Donc les couleurs correspondent aux couleurs que vous avez sur le natel. Rouge, bleu, jaune ou vert. Quelle couleur est supposée porter malheur? Ah là 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 là, Bastien.
Ah, une question...
Une question subtile, hein. Allez, encore 5 secondes pour répondre. Rouge, bleu, jaune ou vert. Et voilà. Oh là là, 100% de bonne réponse. Effectivement, il s'agissait de la couleur vert, mais peut-être tu peux nous en dire plus.
Oui, alors je peux vous en dire plus. On en apprend tous les jours. C'est une superstition qui est apparue au début du XXe siècle. On ne sait pas vraiment pourquoi. On dit que Molière portait du vert, un vêtement vert, lorsqu'il a joué pour la dernière fois Le Malade Imaginaire le 17 février 1673, quelques heures avant sa mort. Cette superstition peut aussi venir du fait que, début du XXe siècle, les costumes étaient, pour être teints en vert, on utilisait de l'oxyde de cuivre ou du cyanure, qui était relativement toxique pour les comédiens. C'est pour ça que certainement, on interdisait, on essayait de pas trop utiliser la couleur verte pour, en tout cas, les costumes. C'est assez amusant, j'ai aussi vu que les couleurs porte-malheur changent en fonction du pays.
Ah ouais ?
Par exemple, au Royaume-Uni, c'est le bleu.
Pourquoi ? On ne sait pas.
Oh, ça, je ne sais pas. Je vous dirai pour la dernière. Italie, c'est le violet et l'Espagne, c'est le jaune. Pourquoi le jaune ? Parce que, vous savez, les toréadors, ils ont leur espèce de comment on appelle ça ? De couverture où les taureaux foncent dedans, d'un côté plutôt rouge et de l'autre côté jaune, et qu'en fait si les toréadors se font empaler, la dernière couleur qu'ils voient en général est le jaune. C'est pour ça qu'elle porte malheur aussi au théâtre. Voilà, donc la bonne réponse était la réponse verte.
Ah, bah dis donc, voilà, bah on va essayer de vous apprendre des choses aussi dans ce quiz, pas que répondre bêtement aux questions. Mais déjà, la question 3 qui arrive, là c'est serré, le tableau c'est serré. C'est parti, question suivante, top, quel compositeur a écrit West Side Story. Quel compositeur a écrit West Side Story? On a fait une émission Césure. Rouge, Benjamin Britten. Bleu, Leonard Bernstein. Jaune, Arnold Schoenberg. Ou vert, Dimitri Shostakovich. Quel compositeur a composé la West Side Story? Rouge, Benjamin Britten. Bleu, Leonard Bernstein. Jaune, Arnold Schoenberg. Ou vert, Shostakovich. West Side Story, une comédie musicale à succès, un film extrêmement célèbre, Britten, Bernstein, Schoenberg ou Shostakovich. Ah, voilà. Il s'agissait effectivement, le temps est imparti, de Leonard Bernstein.
On en a beaucoup parlé.
On a même diffusé un concert, en fait, qui avait été donné au canton de Genève, où West Side Story avait été joué. Il s'agit effectivement de Leonard Bernstein, qui avait eu un succès planétaire avec cette œuvre. Avec comme le premier de la excusez-moi, le premier du classement actuel est un dénommé Coucouille, et suivi de BDA et Fabiane. Félicitations à la Coucouille, essaie de rester en lice, et à Perica qui reste un peu en queue de classement. Ensuite, question suivante, et là j'aurai une explication à vous donner. C'est parti, êtes-vous prêts? Dans un orchestre symphonique, qui donne le la? Donc qui donne la note d'accord? Rouge, le chef d'orchestre. Bleu, le premier violon. Ou jaune, le joueur de triangle. Vert, le premier hautbois. Qui donne le la dans un orchestre symphonique? Qui permet à l'orchestre de s'accorder? Rouge, le chef d'orchestre. Bleu, le premier violon. Jaune, le joueur de triangle. Ou vert, le premier hautbois.
C'est grâce à lui que tout le monde joue
juste,
en fait.
Joue juste. Ah, ça prend un peu à répondre. Et le temps. Ah, voilà. Ouh là là, plusieurs réponses différentes. Il s'agissait du premier hautbois. Mais alors, pourquoi le premier hautbois?
Oui, alors, pourquoi? Comment ça se fait?
Le hautbois est un instrument qui est réputé pour être extrêmement stable et avoir un timbre clair. C'est-à-dire que quand il résonne, il n'y a pas de variation de hauteur dans sa note, la plupart du temps, et son timbre est assez clair pour que tout le monde puisse bien l'avoir dans l'oreille. Mais maintenant, comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs fréquences pour s'accorder. Les deux plus répandues sont 440 Hz ou 442 Hz. Les orchestres jouent une fois l'un, une fois l'autre. Ça dépend un peu du style musical. Dans la musique baroque, la musique ancienne, c'était beaucoup plus bas. Le ton était plus bas. Et à l'époque même, ça changeait de pays en pays. Une petite exception toutefois, lorsqu'il y a un piano dans l'orchestre ou comme soliste, c'est le premier hautbois qui ira prendre le la du piano, parce qu'effectivement, le piano est déjà accordé. On ne va pas commencer à le raccorder sur scène.
Ah oui,
donc le premier hautbois va prendre le la du piano et ensuite le donnera à l'orchestre. Ça, il le faut au préalable pour pas que tout le monde le voie. Il y a même une petite histoire, et là je la dédicace à mon père. Et c'était une célèbre soprano qui avait joué avec l'Orchestre National de France et qui était un peu inquiète pour ses aigus. Elle avait peur de craquer ses aigus. Du coup, elle a fait inscrire dans son contrat la hauteur du la. C'est-à-dire qu'elle a, elle a stipulé dans son contrat la hauteur du la qu'elle voulait avoir pour chanter parce qu'elle avait peur que l'orchestre s'accorde trop et qu'elle ne puisse plus chanter sa note aiguë. Donc effectivement, si les instruments à cordes peuvent bien moduler et puis monter beaucoup ou descendre beaucoup si nécessaire, les instruments avant, eux, sont beaucoup moins flexibles. Donc imaginez, si la variation du la est trop grande, les instruments avant resteront cloués au sol, Bastien. Jeu de mots pourri. Je vous prie de m'excuser.
Ah oui.
Cloué au sol. Bon, passons à la question suivante, la dernière de cette première série. Êtes-vous prêts? Attention.
Une question théâtre.
Top question théâtre. On va reprendre le West Side Story. De quelle pièce de Shakespeare est inspirée la West Side Story de Leonard Bernstein?
A inspiré la West Side Story.
Voilà. Quelle pièce de Shakespeare était l'inspiration de cette pièce? Rouge, Hamlet. Bleu, Othello. Jaune, Roméo et Juliette. Et vert, Mesure pour mesure. Je répète la question, de quelle pièce de Shakespeare est inspirée la West Side Story de Bernstein? Rouge, Hamlet, bleu, Othello, jaune, Roméo et Juliette, vert, Mesure pour mesure, encore 4 secondes, oula, les réponses, faut se dépêcher. Et voilà, le temps est imparti, plus majorité de réponses justes, il s'agissait effectivement de Roméo et Juliette. Bastien, peut-être un petit mot là-dessus?
Oui, Roméo et Juliette, qui est une tragédie de William Shakespeare, écrite probablement entre 1591 et 1595, qui raconte l'amour de deux familles ennemies de Vérone, les Capulet et les Montaigu, dont les deux enfants, Roméo et Juliette, sont amoureux l'un de l'autre. Et forcément, c'est un amour impossible, d'où la tragédie, puisque les deux familles sont ennemies à Vérone. Et les deux familles finissent par se réconcilier au bord de la tombe de Roméo et Juliette. C'est une histoire qui finit assez mal.
Ah, voilà. Alors peut-être avant de continuer,
oui,
un petit check pour que les gens puissent continuer de se connecter avec nous. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Allez sur votre Natel et tapez le site internet kahoot.it, K-H-O-O-T.it, K-A-H-O-O-T.it, et tapez le code PIN 754-067, K-A-H-O-O-T.it, et le mot de passe 754.067. Voilà, excusez-moi, il m'a manqué avant.
Il n'y a pas de point.
Hein ?
Il n'y a pas de point. Tu as dit les chiffres
avec
un point.
Ah oui, non, il
n'y
a pas de point. Voilà. 764-067.
Voilà.
Et nous continuons avec toujours notre ami Coucouille qui est en tête du classement avec 3225 points et suivi par Baptiste et Anne, probablement Aperica, Brandu et BDE. Alors, nous continuons le quiz. Deuxième série, attention, top. De quelle œuvre est tirée cette célèbre réplique, Bastien?
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Ah, de quelle œuvre est tirée cette célèbre réplique? Rouge, le médecin malgré lui. Bleu, on ne badine pas avec l'amour. Jaune, Cyrano de Bergerac. Et vert, Don Juan. Encore la réplique, Bastien.
C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
De quelle œuvre est-ce tiré? Le médecin malgré lui, rouge, on ne badine pas avec l'amour. Bleu, jaune, Cyrano de Bergerac. Et vert, Don Juan. Oula, ça a peiné à répondre. Effectivement, il s'agissait de Cyrano de Bergerac. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose?
Oui, alors Cyrano de Bergerac, ça a été écrit par Edmond Rostand et présenté pour la première fois en 1897. C'est un texte en alexandrin, ça se fait plus tellement à l'époque, mais lui le fait. Un texte très célèbre qui est extrêmement joué, surtout dans les pays francophones. L'année passée, on a eu deux versions à Genève, la version du théâtre de Carouge et une version sur la plaine de Plainpalais, on vous en avait parlé d'ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle la tirade des nez, où Cyrano dit tout ce qu'on peut dire à propos de son nez, et c'est la description. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. On a aussi pu entendre cette célèbre réplique dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Ah,
Ouais. Puisque c'est un hommage de Depardieu quand il casse le nez du sphinx, puisque Depardieu a joué au cinéma Cyrano de Bergerac et qui dit, une fois qu'il l'a cassé, c'est un pic, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Ah voilà. La prochaine question est un peu plus difficile, elle concerne la musique, oui. Plutôt la culture générale, mais vous verrez que les explications sont passionnantes.
Vous en avez déjà parlé, je pense.
Préparez-vous, c'est parti. Dans quelle ville allemande se trouve l'opéra construit pour Richard Wagner? Dans quelle ville allemande se trouve l'opéra construit pour Richard Wagner? Rouge, Berlin. Bleu, Munich. Jaune, Bayreuth. Et vert, Francfort. Dans quelle ville allemande se trouve la maison d'opéra construite spécialement pour le compositeur Richard Wagner? Rouge, Berlin. Bleu, Munich. Jaune, Bayreuth. Ou vert, Francfort. Une salle très particulière.
Berlin, Munich, Bayreuth, pour que je lui donne la réponse.
Oula, ouais, oula, tout le monde n'a pas pu répondre, c'était un peu compliqué. Alors, la réponse était Bayreuth. Et Bayreuth, qui est une ville donc en Allemagne, c'est la première salle en fait qui n'a pas été construite en fer à cheval ou dite à l'italienne. C'est-à-dire que le public, comme on peut imaginer le Victoria Hall par exemple, va aussi autour sur les côtés. Et eux, ils ont construit en fait un amphithéâtre comme dans la Grèce antique. Donc tous les spectateurs étaient plus ou moins à la même, au même niveau. Il n'y avait pas de gens autour comme ça. Il y avait une grosse pente et des sièges en quinconce. L'invention du siège en quinconce. Donc un siège au milieu de deux sièges, etc.
Pour mieux voir entre les têtes des gens.
Mais deux révolutions majeures qui ont changé à jamais le théâtre et la musique. La première, c'est bon, peut-être juste la musique. La fosse d'orchestre est sous le public en partie, et le son provient, voilà, notamment du dessous. C'est-à-dire qu'on voit pas l'orchestre comme à l'Opéra de Genève, par exemple, qui est tout devant et puis on voit un petit peu. Non, il est sous le public et le son sort d'entre les planches. Et le but était que le public ne se distrait pas. Ah. Et la deuxième chose qui, elle, vraiment a tout révolutionné, c'était que l'obscurcissement de la salle était inédit. Jusqu'alors, le public avait une belle lumière pour pouvoir lire le public et se voir eux-mêmes. Donc, dans ces théâtres à l'italienne, ils se regardaient, ils allaient plus pour se montrer que pour voir de la musique. Et c'est la première fois qu'ils ont fait une salle totalement noire où le public était obscurci. Et ça a fait vraiment, ça a une résonance internationale. Et à cette première à Bayreuth où le public était plongé dans le noir, le succès a été tel qu'il a été ensuite repris à travers le monde et que maintenant, c'est la norme d'avoir des théâtres plongés dans le noir.
Mais c'est aussi pour l'idée de Wagner de l'œuvre d'art totale.
L'œuvre d'art totale, exactement. Coucouille toujours en tête, suivi d'Apérica qui est bien remonté. BDE, Brandu et Baptiste et Anne. Le classement est toujours assez bien tenu, donc les cinq personnes sont très au clair. Question suivante. Dans les théâtres, une lumière reste toujours allumée sur scène la nuit. Quel est son nom? Rouge, la nocturne. Bleu, la veilleuse. Jaune, la poursuite, ou vert, la servante. Dans les lumières, dans les théâtres, une lumière reste toujours allumée sur la scène pendant la nuit. Quel est son nom? Rouge, la nocturne. Bleu, la veilleuse. Jaune, la poursuite, ou vert, la servante. Aïe, 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 c'est compliqué. Une lumière toujours allumée sur scène pour éviter les accidents, je crois. Alors, que des réponses différentes, essentiellement. Enfin, quand même une préférence pour la veilleuse, ce qui n'est pas la bonne réponse.
Non, la bonne réponse, c'est la servante. La servante, c'est le nom qu'on donne à une lampe sur pied, une simple ampoule sur un pied qu'on donne. C'est entre deux représentations ou répétitions, quand le théâtre est vide, en général la nuit, on laisse la plupart du temps, pas dans tous les théâtres, mais la plupart, une lumière allumée sur la scène. On dit afin d'éloigner les fantômes qui viendraient hanter le théâtre pendant la nuit. De manière plus pratique, elle sert surtout à se repérer lorsqu'un premier occupant du théâtre entrerait dans la salle, qui serait dans le noir depuis Wagner, comme on l'a dit jusqu'avant, depuis Bayreuth.
Merci Richard.
Voilà, une salle dans le noir, du coup, on ne voit rien. Heureusement qu'il y a une petite lumière sur la scène pour se repérer, voir où est la scène. Et puis, en général, effectivement, s'il y a une fosse, s'il y a des trous dans la scène, pour éviter de se casser la figure dedans. Voilà, donc on appelle ça la servante.
Allez, Baptiste et Anne, vous êtes en fin de classement. On compte sur vous. Je vous salue d'ailleurs. Je crois voir qui vous êtes. Je vous salue. Allez, revenez avec nous. Et coucouille toujours en place. Toujours en première place. Question suivante. Vous voulez dire qu'on ne change pas beaucoup de registre. Top. De quel royaume Hamlet, personnage de Shakespeare, est-il le prince? Rouge, la Norvège. Bleu, la Suède. Jaune, l'Angleterre. Ou vers le Danemark. De quel royaume Hamlet, personnage de Shakespeare, est-il le prince ? Rouge, la Norvège. Jaune, la Suède. Excusez-moi, je recommence. Rouge, la Norvège. Bleu, la Suède. Jaune, l'Angleterre. Ou vert, le Danemark. Rouge, la Norvège. Bleu, la Suède. Jaune, l'Angleterre. Ou vert, le Danemark. Et voilà. Ouh là là, plusieurs réponses différentes, mais beaucoup de justes, effectivement. Le Danemark.
C'est le Danemark, effectivement. C'est une pièce donc, de William Shakespeare, publiée en 1603. C'est la plus longue et certainement la plus célèbre pièce de William Shakespeare, excusez-moi, où il y a cette fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question ». Voilà, Hamlet, qui est donc le prince du Danemark, et son père, le roi du Danemark, qui est mort, vient le hanter, puisque sa mère, la reine, s'est remariée avec quelqu'un. Enfin, c'est toute une histoire, c'est une longue pièce. Voilà, « Être ou ne pas être, telle est la question », c'était le prince du Danemark, Hamlet.
Voilà, un petit check encore. Pour jouer avec nous, c'est très facile, il faut vous rendre sur le site kahoot.it, K-A-H-O-O. ot.it et rentrer le code PIN 754067 754067. Question suivante, coucouille, mais décidément, ce coucouille, Bastien, est un diable qui réussit tout.
Il y a un petit extrait.
Petit extrait musical, Brian. Et voilà, vous aurez sûrement reconnu la flûte enchantée de Mozart. Et top la question. Quel protagoniste, quel héros de la flûte enchantée est un homme oiseau ? Un homme oiseau. Rouge, Tamino. Bleu, Papageno. Jaune, Pamina. Et vert, Zarastro.
Et un célèbre air d'ailleurs.
Voilà, Papageno. Tamino, Pamina ou Zarastro. Quel protagoniste de la flûte enchantée est un homme oiseau ? Alors, rouge, Tamino. Bleu, Papageno. Jaune, Pamina. Ou vert, Zarastro. Et voilà, tout le monde a répondu. On a encore gagné des joueurs avec nous.
Fantastique. Toutes des bonnes réponses.
Fantastique, que des bonnes réponses. Il s'agissait évidemment de Papageno. Et j'ai une anecdote sur Papageno, d'ailleurs. L'oiseleur de la flûte enchantée. Il y a un terme scientifique qui s'appelle l'effet Papageno. Et l'idée est la suivante, elle nous concerne un petit peu. Lorsqu'il est évoqué une affaire de suicide dans les médias, les conséquences peuvent parfois être terribles. Et une augmentation du suicide est souvent constatée par la suite si le sujet n'est pas bien traité. Par exemple, quand ils annoncent comment quelqu'un aurait pu commettre l'irréparable. Et voilà, ça arrive que ça soit ensuite une hausse du taux de suicide. En revanche, si la même histoire, si le même fait divers est abordé, mais que les médias rappellent alors qu'il existe d'autres solutions, il est constaté non pas une hausse des suicides, mais une hausse de la demande de prise en charge psychologique. Et ça s'appelle l'effet Papageno, car dans la flûte enchantée, Papageno, désespéré d'avoir perdu son amoureuse Papagena, cherche à commettre l'impensable et viennent alors à lui trois garçons qui l'invitent à réfléchir et lui offrent d'autres solutions. Et Papageno revient sur sa décision et retrouve au final Papagena et retrouve l'amour et reprend une vie normale. Et ils ont appelé ça en psychologie l'effet Papageno. Donc vous voyez, répercussion de l'opéra dans la vie normale. Continuons pour la troisième série. Vous êtes super, vous êtes super rejoint. Une question théâtre. Coucouille en tête. À Fabiane qui est en cinquième position. Bienvenue Fabiane. Qui a écrit Le Mariage de Figaro ? Donc une pièce de théâtre. Qui a écrit
On en avait parlé.
Le Mariage de Figaro. Rouge, Musset. Bleu, Marivaux. Jaune, Molière. Ou vert, Beaumarchais. La pièce de théâtre Le Mariage de Figaro. Qui
Tout DM.
A écrit cette pièce ? Rouge, Musset. Bleu, Marivaux. Jaune, Molière. Ou vert, Beaumarchais. Aïe, aïe, aïe. Musset, rouge, Marivaux, bleu, Molière, jaune, Beaumarchais, vert. Le Mariage de Figaro. Allez, allez, allez. Et on a eu toutes les réponses. Parfait. Oula, c'est très différent, les réponses. Il s'agissait, Bastien, de...
Il s'agissait de Beaumarchais. Une pièce écrite en 1778. On vous en avait parlé parce que en début d'année ou l'année passée, je crois, il était passé à la Comédie de Genève, mis en scène par Joan Mompard. C'est une pièce écrite en 1778. C'est une espèce de satire contre la noblesse de l'époque. C'est dans un climat, ça a été créé dans un climat où une dizaine d'années plus tard éclatera la révolution française. Voilà. On a déjà quelque chose qui va donner la Révolution française plus tard.
Magnifique. On va essayer d'avancer un petit peu dans ce quiz pour finir quand même plus ou moins à l'heure. On est bientôt au bout, vous êtes super, vous nous rejoignez, c'est génial. Question suivante. Coucouille en tête, Brandu qui a fait la plus belle remontée. Vous avez même un petit feu à côté de son nom. Brandu, Aperica, BDE et Fabian. On continue. Question musique ou théâtre. Qui a composé l'histoire du soldat? L'histoire du soldat, 100 ans cette année. Rouge, Stravinsky. Bleu, Tchaïkovski. Jaune, Honegger. Ou vert, Moussorgsky. Qui a composé l'histoire du soldat? Igor Stravinsky, rouge. Tchaïkovski, bleu. Arthur Honegger, jaune. Ou Moussorgsky, vert. L'histoire du soldat, une œuvre notamment avec du théâtre et de la musique, écrite en Suisse il y a 100 ans de cela. Rouge Stravinsky, bleu Tchaïkovski, jaune Honegger ou vert Moussorgsky. Les réponses sont affluées. Voilà, on a quelqu'un qui a répondu Honegger. C'est pas bête, effectivement, un compositeur suisse. Je vous ai peut-être un petit peu mis dans l'embarras. Non, il s'agissait d'Igor Stravinsky en Suisse, pendant la Première Guerre mondiale, comme on vous l'a déjà raconté, qui est là et qui, pour tuer le temps, va rencontrer Charles-Ferdinand Ramu et vont écrire ensemble une pièce qui sera mondialement connue. On continue, Bastien ?
On continue.
Là, petite question un petit peu bonus.
Ah, oui.
Là, c'est de la culture générale, de chez Général. Attention, top au départ. Quel célèbre chanteur français a fait un double album sur Hamlet ? Quel célèbre chanteur français a fait un double album sur Hamlet ? Rouge, Michel Sardou. Bleu, Johnny Hallyday. Jaune, Dave. Ou vert, Jean-Jacques Goldman ? Quel célèbre chanteur français a fait un double album sur Hamlet ? Rouge, Sardou, bleu, Johnny, jaune, Dave ou vert, Goldman. Aïe, 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 aïe.
Sardou, Hamlet. Johnny, Dave, Goldman.
Il s'agissait... Et voilà, les réponses sont tombées.
Tout le monde a répondu.
On ne
vous donne
juste
pas la réponse. On va l'écouter. On va écouter un extrait de ce double album sur Hamlet.
Brian fait péter.
Les fossoyeurs jouent au bowling.
Et voilà.
Crâne qui roule et tourne boule. C'était la bonne réponse. Johnny Hallyday. J'ai
d'ailleurs,
quelques infos.
Dont nous fêtons cette année.
Oui, non, mais alors, plus que cette année. Aujourd'hui, figurez-vous que c'est l'anniversaire, un triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, Johnny Hallyday, on nous annonçait son décès. Donc voilà, le 5 décembre, il y a un an, Johnny Hallyday mourait. Donc, pour vous parler un petit peu de ce double album, il est sorti le 7 septembre 1976. C'est une espèce d'opéra rock qui s'inspire de Hamlet de Shakespeare, qui fait un flop total, on ne va pas le cacher, alors que Johnny vient de remplir le Palais des Sports de Paris. C'est son premier double album studio qui passe totalement inaperçu, puisque tourné après le Palais des Sports, plusieurs chansons qui marchent très bien comme Requiem pour un fou. Et là, ce double album sort et personne ne le voit passer. Johnny Hallyday dira « Dommage, ce disque, j'y avais mis toutes mes tripes ». Voilà.
Les tripes de Johnny.
Écoutez-le, c'est assez amusant.
Allez, on va continuer. Un petit coup d'œil sur les scores. Coucouille, Brandu, Aperica, BDE et Fabian, vous êtes magnifiques. Et question suivante, question 14. Combien de symphonies a composé Ludwig van Beethoven ? Combien de symphonies a composé Ludwig van Beethoven ? Rouge, 6. Bleu, 12. Jaune, 9. Ou vert, 7. Combien de symphonies a composé Ludwig van Beethoven ? Rouge, 6. Bleu, 12. Jaune, 9. Ou vert, 7. 6 symphonies, rouge, 12 symphonies, bleu, 9 symphonies, jaune, 7 symphonies, vert. Ludwig van Beethoven, compositeur éminent de l'art classique romantique, c'est des grandes questions qu'on s'est déjà posées dans cette émission. 6, 12, 9 ou 7 ? Et oui, la réponse est exacte. La réponse est 9 symphonies, absolument. J'avais d'ailleurs prévu quelque chose là-dessus. Beethoven, qui écrit 9 symphonies, sa 3e symphonie, par exemple, la symphonie héroïque, a été dédiée initialement à Napoléon Bonaparte, qui représentait pour Beethoven les idéaux de la Révolution française et la libération de l'homme sur l'État. Et lorsqu'il apprend la proclamation de l'Empire français en 1804 par Napoléon, il est tellement dégoûté, il devient fou de rage et remplace le titre de sa symphonie par « Grande symphonie héroïque pour célébrer le souvenir d'un grand homme ». Donc il ne fait plus du tout référence à Napoléon. Question suivante, question 15 pour finir cette troisième série, cette avant-dernière série.
Et à propos de Beethoven, la neuvième d'ailleurs, sa dernière, a donné l'hymne européenne d'ailleurs, l'Aude à la joie.
L'Aude à la joie. La question, la dernière question de cette troisième série, tenez-vous prêts. Et voilà, comment s'appelle le bâton avec lequel l'on tape les trois coups au théâtre avant les spectacles? Rouge, le brigadier. Bleu, la masse. Jaune, le gendarme. Ou vert, l'appel. Le bâton avec lequel l'on tape les trois coups avant les pièces de théâtre. Rouge, le brigadier. Bleu, la masse. Jaune, le gendarme. Ou vert, l'appel. Voilà, une tradition qui est un petit peu démodée, mais qui se fait encore parfois, malgré tout. On tape les coups du théâtre avant le début. Rouge, le brigadier. Bleu, la masse. Jaune, le gendarme. Et vert, l'appel. Vous avez tous répondu. Voilà, vous avez tous répondu en majorité le brigadier et quelqu'un qui répond le gendarme. C'était assez en lien, Bastien.
La bonne réponse est le brigadier. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Les trois coups peuvent correspondre aux différents saluts que les comédiens devaient faire avant de commencer à jouer. Par exemple, un salut au roi, un salut à la reine, un salut au public ou d'autres personnes. Ça peut aussi rappeler la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans le théâtre classique français, les trois coups servaient essentiellement pour que le régisseur en chef, qu'on appelait le brigadier, celui qui gère la brigade, donc l'équipe de régisseurs du théâtre, il frappait 12 premiers coups pour annoncer le début du spectacle, pour que le public se taise. Puis le premier coup venait des cintres, donc de au-dessus de la scène, du régisseur qui était au-dessus de la scène, le deuxième de dessous la scène, du régisseur sous la scène, et le troisième de la coulisse d'en face, le régisseur de la coulisse d'en face. Et ainsi, on pouvait vérifier que tous les régisseurs, tous les techniciens, toute la brigade autour du théâtre étaient prêts pour commencer le spectacle. C'est un peu, si vous voulez, le talkie-walkie de l'époque.
Une sorte de dubby digital, ça tapait dans tous les sens.
Voilà, c'était pour vérifier que tout le monde était prêt. On donnait un petit coup, puis le spectacle commençait. Voilà. Et ouais, c'est resté dans la tradition, on tape avec un bâton qu'on appelle le brigadier.
Ouais, rien n'est jamais anodin. Rien n'est jamais anodin. Et nous sommes partis pour cette dernière série, 5 dernières questions. Oh, ça change le tableau. Coucouille qui fait un sans faute. Brandu, Apereka, BDE et Fabian. Vous êtes super. Je rappelle juste comment jouer avec nous pour ceux qui voudraient finir l'émission. Il faut se rendre sur le site kahoot.it, kahoot.it, sur votre smartphone, etc. Tout est possible. Et inscrire le code PIN 754-067. 754-067. Voilà. Très bien. Nous sommes partis pour cette dernière série. Tenez-vous bien. Question numéro 16, top. Dans Pierre et le loup, quel instrument représente le chat? Pierre le loup de Serge Prokofiev, qui joue le chat? Rouge, le basson. Bleu, les cors. Jaune, la clarinette. Ou vert, la flûte. Qui joue le chat? Rouge, le basson. Bleu, les cors. Jaune, la clarinette. Et ou vert, la flûte. Donc chaque instrument joue un animal ou un personnage, quelque chose comme ça. Mais qui joue le chat? Rouge le basson, bleu les cors, jaune la clarinette ou vert la flûte. Alors, flûte alors, le temps est fini. Le jeu de mots pourri. Et oui, beaucoup de réponses différentes. Effectivement, il s'agit de la clarinette. J'étais obligé en tant que clarinettiste. La clarinette qui joue le rôle du chat. Et si ça vous intéresse d'ailleurs... voilà, le Pierre est joué par un quatuor à cordes, le hautbois joue le canard, l'oiseau est joué par la flûte, le basson c'est le grand-père, les cors, quatre cors jouent le loup, et les timbales sont joués par les chasseurs, les chasseurs sont interprétés par les timbales. Donc, Pierre et le loup, tous les enfants ont déjà entendu ça une fois. Question 17, attendez, ça c'est un petit peu ardu, mais vous verrez que l'histoire est passionnante.
Ça, c'est un peu ardu.
Un petit peu ardu, question musicale. Qui a composé le célèbre concerto de piano pour main gauche? Rouge, Mozart. Bleu, Ravel. Jaune, Lully. Ou vert, Bach. Qui a composé le célèbre concerto de piano pour main gauche? Donc, interpréter que avec la main gauche, ne pas utiliser la main droite. Rouge, Mozart. Bleu, Ravel. Jaune, Lully. Ou vert, Bach. Allez, on va vous expliquer un peu l'envers du décor. Après, c'est assez... Voilà. Mozart, rouge, Ravel, bleu. Lully jaune ou Bach vert. Oula, ça met de la peine à répondre. Ah, voilà, le temps est écoulé. Et il s'agissait non pas de Bach ou de Lully, comme certains ont répondu, mais de Maurice Ravel. Maurice Ravel. Alors pourquoi un concerto pour main gauche, on peut
bah
se
oui,
demander.
Alors, pourquoi ça,
composé par Maurice Ravel pour Paul Wittgenstein, un pianiste autrichien qui était manchot car il a perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale au combat. Il passe alors commande à Ravel pour une œuvre pour piano, uniquement pour la main gauche. Ah, c'est une année après l'écriture du Boléro à peu près. Il a aussi passé des commandes à d'autres compositeurs extrêmement célèbres, Eric Korngold, Benjamin Britten, Richard Strauss ou Serge Prokofiev, justement dont on parlait avant. Et ils se sont frités vraiment beaucoup parce qu'à la première, ce pianiste Paul Wittgenstein avait modifié complètement la partition de Ravel et avait fait des choses très différentes. Et il a déclaré à Ravel « Je suis un vieux pianiste et cela ne sonne pas ». Donc Ravel, énervé, lui a répondu « Je suis un vieil orchestrateur et cela sonne ». Ils sont frités jusqu'à la fin, ils ne sont jamais vraiment réappréciés de nouveau. Encore trois questions dans ce quiz et ce sera la fin du quiz de Noël et de cette année pour Césure. Des questions un peu plus légères, on en a parlé le mois passé en l'occurrence, tenez-vous prêts. Oula, c'est super serré. Coucouille à 12 720 points et Brandu à 10 438 points, suivi par Aperica, BDE et Fabian un peu plus derrière. Mais Coucouille et Brandu, ils se tiennent. Alors, ils se tiennent. Hein.
Pour la question suivante, si vous avez écouté notre émission du mois passé, nous en avons parlé avec notre ingé son de ce soir, que nous remercions encore une fois, Brian Despaniers, qui est avec nous pour ce direct live des studios de La Fabrique.
Alors tenez-vous bien et top, c'est parti. Karl-Heinz Stockhausen a composé une pièce pour quatuor à cordes et rouge, tronçonneuse, bleu, hélicoptère, jaune, scie musicale ou vert, marteau-piqueur.
Brian a déjà répondu.
Stockhausen a composé une pièce pour quatuor à cordes et rouge, tronçonneuse, bleu, hélicoptère, jaune, scie musicale ou vert, marteau-piqueur. Ah là là, les choses c'est pas commun tout ça. Rouge tronçonneuse, bleu hélicoptère, jaune scie musicale ou vert marteau piqueur. Oula, que des réponses différentes. Tronçonneuse en 1, bleu hélicoptère en 2 et jaune scie musicale. Il s'agissait, comme on l'avait dit le mois passé, de 4 hélicoptères. C'est-à-dire que chaque musicien du quatuor à cordes est dans un hélicoptère différent. Les hélicoptères en montant et descendant peuvent varier la hauteur des pales et puis faire des sons différents. Ils sont tous retransmis et enregistrés en direct. Et dans une salle, des gens regardent ce ballet d'hélicoptères avec ces joueurs de violon, d'alto ou de violoncelle. Donc une œuvre complètement, un ovni quoi, dans la musique classique qui avait marqué l'histoire. Plus que deux questions pour gagner. On va voir où on en est. Attention. Coucouille, voilà, coucouille. Toujours en tête. Fabian, il est bien là, il est bien Fabian. C'est parti. Qui a achevé la composition du Requiem de Mozart ? Mozart décède, quelqu'un achève sa composition.
Un petit piège.
Rouge, Salieri. Bleu, Vincent Thévenin. Jaune, Sismayer. Ou vert, Mozart lui-même. Qui achève la composition du Requiem de Mozart ? Rouge, Salieri. Bleu, Vincent Thévenin, grand compositeur français du 19e siècle. Jaune, Sussmayer, et Mozart lui-même, vert. Effectivement, on connaît tous le film Amadeus, mais est-ce seulement la réalité ? Quelqu'un qui répond Salieri, c'est ce que tout le monde aurait répondu. En réalité, il s'agit de Sussmayer, un élève de Mozart. C'est-à-dire qu'à la mort de Mozart, sa veuve Constance avait besoin de finir l'œuvre pour pouvoir toucher l'intégralité du pactole. Alors, elle va mandater 3 élèves de Mozart pour finir le Requiem. Et celui qui, au final, fera le plus gros travail, c'est Sussmayer, qui finira même par faire une parodie d'autographe de Mozart pour pouvoir faire croire au type que Mozart l'avait fini. Alors, il va faire une sorte de signature de Mozart fausse. Mais c'est lui qui finit en réalité le Requiem. Mais la commande de ce Requiem est un peu particulière. C'est que le comte qui a commandé ce Requiem est un petit peu taquin. Et il a toujours pris des gens différents pour aller vers Mozart, lui commander des nouvelles choses. Ils arrivaient avec des bourses remplies d'or. Le film, de ce point de vue-là, est vrai. Et puis, c'était toujours des gens différents, des apparitions mystérieuses qui commandaient le Requiem. Et Mozart composait comme un fou jusqu'au moment où il est décédé. Pas de ça, forcément. Mais ça a contribué aussi un peu à cette dernière année folle et à la légende de Mozart.
Et d'ailleurs, sauf erreur, les dernières mesures qu'il a composées du Requiem sont le Lacrimosa absolument magnifique. Qu'on connaît tous les premières mesures du Lacrimosa, je crois que Sussmayer a terminé.
Voilà, exactement. Et on est déjà à la dernière question.
Dernière
question qui demande beaucoup de genevoisitude.
Une question anniversaire, une question spéciale pour cette
année. Une question anniversaire. Coucouille, Brandu, BDE, Aperica, Fabian. Le tableau ne bouge pas beaucoup, mais à mon avis, Brandu peut encore passer devant s'il répond juste et si Coucouille se plante. Attention, dernière question. Quel chef d'orchestre a fondé l'orchestre de la Suisse romande en 1918. Rouge, Ernest Lancermet. Bleu, Karl Vogt. Jaune, Gustave Adorf. Ou trois, Isaac Mercier.
Qui que a des fond... noms de rue ou de place.
Que des noms de rue. Qui a fondé l'orchestre de la Suisse romande en 1918? Rouge, Ernest Lancermet. Bleu, Karl Vogt. Jaune, Gustave Adorf. Ou vert, Isaac Mercier. Attention, c'est tous ce sont ces rues, mais qui était chef d'orchestre? Rouge, Ernest Lancermet. Bleu, Karl Vogt. Jaune, Gustave Adorf. Ou vert, Isaac Mercier.
Créateur.
Tout le monde répond juste Ernest Lancermet, c'est magnifique. Voilà. Il s'agissait effectivement d'Ernest Lancermet, qui a 100 ans fondé l'orchestre de la Suisse romande.
Et Ernest Lancermet d'ailleurs, qui, on en a parlé juste avant, avait dirigé la première de l'histoire du soldat au théâtre municipal de Lausanne, également en 1918.
Un petit retour sur les résultats finaux.
Alors, qui a gagné?
En troisième position, BDE, Brian Despanier, mais qui n'avait pas les réponses, hein, je tiens à le préciser. Brian Despanier, notre ingé son, qui fait 9794 points et qui fait 11 réponses juste sur 20. En deuxième position, Brandu, le dénommé Brandu, je ne sais pas qui c'est, 11816 points. Il fait 15 réponses justes sur 20. Et s'il vous plaît, notre grand gagnant, avec 17 réponses justes et 15 590 points, Coucouille ! Coucouille, tu es invité à venir réclamer ton dû. Tu me téléphones, on va boire un truc et tu auras gagné une bouteille de rouge. Je vous souhaite à tous... Je vous remercie à tous d'avoir joué, on était nombreux, c'était rigolo, Bastien.
Merci beaucoup, merci d'avoir joué. C'était notre... c'est pas encore fini, notre émission en direct. Pour Noël, on vous a réservé un petit morceau de Noël pour terminer en beauté cette émission.
Un classique de Noël,
un ballet de Tchaïkovski. Olivier, qu'est-ce qu'on va écouter?
Nous allons écouter tout simplement Casse-Noisette de Tchaïkovski, les premières minutes, jusqu'à que ça soit l'heure de rendre l'antenne. On vous reprendra un petit peu avant, histoire de se faire la joyeuse année dans des bonnes conditions. Mais Tchaïkovski, avec qui joue, voilà, le Casse-Noisette dirigé, enfin joué, interprété par l'Orchestre d'État Symphonique de l'URSS, donc un orchestre de qualité, un enregistrement historique. Voilà, l'orchestre de l'URSS qui joue Casse-Noisette. Bonne écoute, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Thank you. C'était le début du Casse-Noisette de Tchaïkovski, il est 20h59, nous allons devoir rendre l'antenne pour cette première émission en direct, cher Olivier.
Merci beaucoup à tous pour votre participation au quiz, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un très bon début d'année en janvier.
Merci, très bonne fête, bonnes vacances de fin d'année, bonne année en janvier. Et nous, on se retrouvera le deuxième mercredi de janvier, puisque le premier, nous serons, comme vous, je l'espère, en vacances. Et donc, on se retrouvera pour le deuxième mercredi de janvier.
Paix dans vos cœurs. Merci beaucoup à Brian Despagny en régie, à l'équipe de Radio La Fabrique, Anne Marron, Yannick Richter et toute l'équipe. Merci à vous. Joyeux Noël.